Bonjour, je suis Eva et je vais vous faire le bilan de mon interview avec Emmanuel Viot. Je me suis renseignée sur son parcours et j'ai découvert qu'il avait écrit des livres jeunesse, dont la série « Les aventures de Tessa et Longfort ». Il nous présente cette série.
Et à partir de 2000, j'ai commencé à écrire les aventures de Tessa et Longfort, donc ce peuple. Tout leur pays a été massacré, ils ont traversé l'océan et un jour ils arrivent sur un continent inconnu, en pensant trouver une terre, mais là, ils tombent sur tout un tas de choses, de gens qui ne veulent pas d'eux. Donc voilà. Et donc c'est de la fantaisie, donc il y a des dragons, il y a des trolls, il y a des gobelins, il y a des magiciens. C'est assez sombre en fait. Et au départ, c'est plutôt, on m'avait dit, oui, c'est pour les 9-10 ans, au final, c'est quand même plus pour les 12 ans, et on m'a dit que des adultes en fait avaient bien apprécié. Donc voilà.
Sa passion de l'écriture ne s'est pas arrêtée.
Vraiment, la première chose que je crois que j'ai su faire, c'était écrire. Non, bien sûr, on apprend d'abord à marcher, à manger et à dormir, c'est évident. Mais je les ai plus maintenant, mais mes parents m'avaient retrouvé des histoires que j'écrivais quand j'avais 7 ans, 8 ans. Parce que je lisais beaucoup, en fait. Ouais, le premier truc que j'ai su faire, c'est de lire. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, très naturellement, je me disais, tiens, je voudrais être écrivain. Et plutôt de la science-fiction.
Est-ce qu'en ce moment, vous travaillez sur un livre ?
Eh oui, bonne question. Et il y avait bien longtemps. Après, c'est un peu compliqué d'en parler ici parce que c'est un gros projet, en fait. Ça a fait suite à ce que je travaillais avec les lecteurs de jeux bouquins il y a une dizaine d'années. Je faisais beaucoup écrire les collégiens, comme vous, sur le blog de jeux bouquins. Et il y a beaucoup d'expériences d'écriture qui ont vu le jour. Et des belles histoires et tout. Et j'aimerais beaucoup aujourd'hui reprendre certaines de ces histoires, donc pas forcément en jeunesse. Mais si un jour vous entendez du château, parler du château des 100 000 pièces, ça viendra de Joubouquin, ça viendra de moi et des ados de l'époque, des années 2010-2015, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé autour de ça. Et voilà, j'aimerais. Donc c'est un projet un peu ambitieux, parce que l'idée c'est aussi de faire écrire des gens, et pas que des enfants, aussi des adultes. Et voilà, le soir j'essaye, quand j'ai bien travaillé sur ma vie d'ado, tout ça, d'écrire, mais j'avoue que c'est difficile.
Il invente également des jeux. Il nous en présente un.
Il y a Killer Party, qui est un bon jeu pour quand on est nombreux, quand on est 10, 15, 20. C'est une chaîne de meurtre en fait, c'est une sorte de jeu où c'est celui qui tuera le plus vite l'autre en faisant des petits gags en fait, hein. c'est pas un vrai jeu où on se tue, heureusement. Et puis sinon, non, je joue beaucoup, donc des jeux de stratégie et tout, mais c'est celui le plus connu. Oui, puis j'ai inventé un jeu autour de Tom Tom et Nana, c'est Panique au Resto. Voilà.
On a entendu qu'il avait de nombreuses passions, la musique, l'écriture et les jeux. Je lui ai alors demandé pourquoi il avait choisi le métier de journaliste.
Pendant mes études après le bac, normalement j'aurais dû faire des études d'histoire. Je m'étais inscrit pour faire des études d'histoire, le Moyen-Âge, l'Antiquité, parce que j'aime bien. Mais il s'avère que je préférais passer mon temps à dessiner, écrire et faire de la musique. Et donc évidemment, j'avais pas des très bonnes notes à mes examens. Mais bon, j'ai quand même fait un concours d'école de journalisme, j'ai été pris, et puis c'était l'écriture. Encore une fois, c'était vraiment l'écriture. Et aujourd'hui, j'ai continué à faire de la musique, à faire du rock, et j'ai continué à jouer, j'ai continué à lire, j'ai continué à écrire, j'ai continué à faire de la... Et puis je me suis mis un jour à la photo, et puis à la vidéo. Et en fait, j'ai continué en fait à développer mon univers, tout en étant journaliste. Et aujourd'hui, quand je travaille sur ma vie d'ado, je m'aperçois que ma vie d'ado, c'est moi qui fais les musiques. Il n'y a pas de photos, tout ça, mais globalement, toutes mes passions, j'ai réussi au fur et à mesure de ma carrière à les mettre dans mon métier. Je vous parlais de l'écriture tout à l'heure, j'ai créé de l'écriture pour les ados. J'ai créé des ateliers d'écriture en ligne. Donc voilà, j'ai fini par faire entrer toutes mes passions dans mon métier, donc mon métier était naturellement une passion.
Il nous explique que son métier de journaliste a changé.
Oui, le métier de journaliste a changé en général parce que maintenant il y a les réseaux sociaux, donc il faut apprendre. Il y avait déjà la radio, il y avait déjà les journaux écrits, il y avait déjà la télévision. Maintenant, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a plein de façons. Et c'est autant de supports pour les journalistes aussi. Donc il faut apprendre à parler, il faut aussi apprendre à... Aujourd'hui, les journalistes, là où ça évolue aussi, c'est qu'avant, les gens lisaient beaucoup la presse, écoutaient les informations. Là, il y a de plus en plus de gens qui se désintéressent de l'information. Qui préfèrent faire autre chose, bon, pourquoi pas. Mais là où ça commence à poser un souci, c'est qu'il y a des gens qui savent ça et qui s'emparent de l'information pour la déformer. Vous avez tous entendu parler des fake news et de la désinformation. C'est pas qu'un gag, en fait. C'est pas qu'un gag, parce qu'il y a des gens mal intentionnés politiquement parlant, voilà, on peut parler de Trump, on peut parler de Poutine, on peut parler de l'extrême droite, qui ont tendance, qui ont envie que les gens ne soient pas informés sur ce qui se passe vraiment, et qui désinforment. Et là, ça commence à poser un souci. Donc nous, les journalistes en ce moment, on commence à se dire comment est-ce qu'on peut faire pour expliquer que l'information, c'est la base de la démocratie. Et voilà, là, c'est des gros enjeux. C'est pas, moi, j'ai pas forcément la réponse comme ça, mais ça demande... Oui, il faut qu'on se remette en question. Le métier, il a évolué. Oui.
Passionné de la musique, je lui ai demandé si ça l'aidait pour réaliser ses podcasts.
Par exemple, pour ma vie d'ado, les musiques, c'est moi qui les ai faites. Donc, et puis j'en ai faites certaines aussi pour les podcasts. Je travaille pour d'autres podcasts. Par exemple, si vous écoutez le podcast de Pomme d'Api, La Grande Histoire de Pomme d'Api, ben, la musique, c'est moi qui l'ai inventée. Pour La Croix aussi. Donc voilà, comment je travaille, en fait, je pars de boucle, je me sers de boucle, et puis comme je suis pianiste au départ, je fais du synthé, donc j'améliore ça, je les travaille, je trafique le son, je coupe, je ralentis, je joue. Mais c'est vrai que, et puis j'ai sorti, oui, alors, je peux le dire là maintenant, si ça vous intéresse, j'ai sorti un disque l'année dernière, voilà, sous le nom Fiction, F-I-2-X-I-O-N-S, vous pouvez aller voir sur internet. C'est bon, c'est électro, c'est planant, ça fait voyager, ça rejoint un peu tous mes univers aussi. Il y a des images, c'est de la science-fiction, c'est de la musique planante, dansante. C'est pas, voilà, je suis pas sûr que sur YouTube ça cartonne, mais c'est pas grave.
Les podcasts Ma vie d'ado est une série de podcasts qui regroupe des témoignages d'adolescents de toute la France. Découvrons comment ce projet est né.
Sur le blog de Je Bouquine, donc on remonte à il y a 10 ans, donc c'est un magazine jeunesse comme Okapi, dans lequel on faisait écrire les adolescents. Donc au départ, ça s'appelait les ados portraits. Et sur le blog de Je Bouquine, il y avait des questions comme ça. L'ambiance le soir à la maison, la pire note que j'ai eue à l'école, ma plus grosse engueulade. Exactement le même genre de questions auxquelles vous avez répondu tout à l'heure, mais c'était par écrit. Et puis Internet s'est développé, et puis le podcast est arrivé. Parce que je te dirai aussi après, je sais pas s'il y a une question sur le podcast, pourquoi les journalistes se servent du podcast aujourd'hui. Mais à un moment, on s'est dit chez Bayard, il faut faire du podcast. Et Okapi, naturellement, tout d'un coup, je me suis dit, mais ce qui marchait bien par écrit doit très bien marcher par l'oral. En vidéo, ça ne marcherait pas. Parce que en vidéo, si on vous filmait en train de répondre sur vos émotions, vous ne le feriez pas.
Il n'y a pas que Vittel qui participe à cette série de podcasts.
En tout, on participait depuis le début, je dirais plus d'une quinzaine. Plus d'une quinzaine, et à chaque fois entre une, deux, trois ou quatre classes. Et puis il y a aussi beaucoup de stagiaires qui viennent chez Bayard.
Le groupe Bayard Presse met beaucoup en avant la parole des ados à travers ses magazines et podcasts. Il nous explique pourquoi c'est si important d'écouter les ados.
Okapi, et puis moi un peu moins Je Bouquine, mais surtout Okapi, donne la parole aux adolescents, et notamment avec le podcast, parce qu'en fait, les adolescents sont très peu connus ou très peu écoutés. On s'intéresse assez peu dans les médias, en général, aux adolescents. Les collégiens, c'est un peu... vous êtes un peu mystérieux pour tout le monde, et on ne vous entend jamais, on ne parle jamais de vous. Donc voilà, et puis voilà. Puis après, Okapi, c'est un magazine qui s'adresse aux collégiens depuis toujours, donc... C'était naturel qu'on finisse par vous donner la parole au micro.
Cette série de podcasts connaît-elle un vrai succès ?
Là, on est à 600 000 écoutes. Il y a 600 000 personnes recensées, en fait, voilà. Donc, comme ma vie d'ado est diffusée sur Spotify, sur Deezer, enfin, sur tous les réseaux sociaux, et puis sur le blog d'Okapi aussi. Oui, on peut dire que c'est une série qui marche bien.
Notre collège a le privilège de travailler à un tout nouveau projet intitulé « La salle des profs ». Cela consiste à interroger les profs du collège. Mais comment naissent les nouveaux projets chez Bayard ?
Si un journal n'évolue pas, au bout d'un moment, il perd tous ses lecteurs. Si le Okapi était resté tel qu'il était quand il est né dans les années 70, il ne serait plus là. Donc, on essaie de réinventer tout le temps. Et puis, donc voilà, il y a toujours ça, des réunions. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Comment on va évoluer ? Et pourquoi la salle des profs ? Comment ça s'est né ? À un moment, je m'étais dit, ça serait bien qu'on fasse quelque chose qui s'appelle ma vie de prof. L'idée, c'était de toute façon de vous faire participer, vous, de vous rendre journaliste aussi. Un peu comme vous avez fait dans ma vie d'ado. Aussi, il y avait un podcast qui s'appelait ma vie d'ado pour contre, où tous les épisodes étaient enregistrés et faits. Et monter directement dans les collèges, dans les clubs radio. Donc l'idée, c'est aussi de vous aider, en fait, et d'aider les enseignants à vous transformer en journaliste, quoi, à vivre comme des journalistes. Et donc là, la salle des profs, elle est née comme ça, en disant, bah, tiens, ça pourrait être rigolo. Et puis on a discuté avec des enseignants, puis on a discuté avec des élèves, et puis on s'est aperçu que ça pourrait intéresser. Et donc là, c'est en tournage chez vous. Et Ludovic m'a dit tout à l'heure qu'il y avait déjà des bons retours. C'est, voilà. On verra quand on aura reçu tous les rushs, voir si ça marche bien ou pas. Et après, est-ce que ça continuera à vivre ? Ça va dépendre à la fois des gens chez Bayard. Ils vont dire, bah ouais, c'est super, on y va à fond. Ou, ah tiens, bof, peut-être qu'il faudrait revoir les questions. Et puis après, on verra si c'est écouté. Si on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 écoutes, on se dira, bah en fait, non, ça n'intéresse pas les gens.
J'ai décidé de l'interroger à la manière des questions du podcast Ma vie d'ado. Quel est son meilleur souvenir de journaliste ?
Il y a très longtemps, quand j'étais pour Je Bouquine, j'ai fait un reportage avec un photographe sur un commandant de bord. Donc on a voyagé dans le cockpit, on a vu des orages, voilà, et puis on a fait un aller-retour comme ça. On est arrivé un lundi, on est reparti le mardi. Ça, c'était quand même un drôle de... Et puis j'ai volé aussi sur un avion... Comme il était commandant de bord, le gars, le commandant là, il était formateur, je veux dire. Pendant une demi-journée, je suis resté dans un avion vide qui s'entraînait à faire que des atterrissages, décollages, avec 4 moteurs, 3 moteurs, 2 moteurs et que un moteur. Moi, je trouvais. Alors, ça reste pour le coup moyen souvenir quand même parce que je m'étais mis à l'arrière de l'avion tout seul en disant ça doit être rigolo. Et en fait, j'avais super mal au cœur et j'arrivais pas à rentrer, l'avion bougeait trop. Je voudrais que ça s'arrête et c'était assez horrible comme expérience.
Et maintenant, son pire souvenir.
La fin du blog de Je Bouquine, quand ça s'est arrêté parce qu'il fallait passer à autre chose. C'était pas forcément un très beau moment. Dans des réunions, ça se passe pas très bien. Et puis des moments où on me dit, finalement, ton sujet, on le passe pas. Quand il faut couper, c'est pas un très mauvais souvenir. C'est, parfois, il y a des choses qui sont un peu embêtantes.
En conclusion de cette interview, j'ai souhaité savoir quels conseils il donnerait à quelqu'un qui souhaiterait devenir journaliste.
Pose-toi des questions. Reste curieux. Tout le temps.
Je tenais à remercier sincèrement Emmanuel Viau pour le temps qu'il nous a accordé et tout particulièrement cette interview.